Voici donc d'abord le plan de mon intervention. Donc, je vais vous rappeler un petit peu l'historique du mot biodiversité. Je rappelle qu'en 2010, c'était l'année internationale de la biodiversité. Cette année, c'est celle des forêts. Je vais vous expliquer donc les moteurs de la biodiversité, les différentes biodiversités, et puis ensuite, vous verrez que la biodiversité, ce n'est pas qu'une collection d'espèces. Les relations donc entre les individus, entre les espèces, sont tout aussi importantes, je l'évoquerai. Et puis, l'intérêt de la biodiversité, à quoi ça sert, cette biodiversité. Et enfin, donc, l'évolution et que faire en faveur de la biodiversité. Alors, on va commencer, comme tous les exposés, par un petit mot de définition, tout de même. Et qu'est-ce que c'est? Quelle est l'histoire du mot biodiversité? Donc, c'est un scientifique américain qui l'a résumé en une phrase en disant que c'est la totalité de toutes les variations de tout le vivant. Donc, vous voyez, vaste programme. Alors, pour d'autres, ils disent que c'est le tissu vivant de la planète, que c'est le phénomène de la vie depuis 4 milliards d'années, tout de même. Pour d'autres, ce sont aussi les liens entre les espèces. Et ce sont les êtres vivants liés par des liens de parenté. Là, vous verrez que la notion de biodiversité se réfère aussi à une origine commune de la vie que j'évoquerai donc en dernière partie de l'intervention. Alors, l'homme aime classer. Et la biodiversité n'a pas échappé à cette règle, puisque, vous savez certainement, mais les êtres vivants sont classés dans des grandes catégories qui commencent par les domaines, le règne, les embranchements, les classes, et surtout, ce qui est très important, et je vais y revenir, c'est la notion d'espèce. Vous êtes vous-même une espèce, vous avez un nom latin, c'est Homo sapiens, et donc cette notion d'espèce est tout à fait importante. Alors, une espèce, c'est une population, donc, ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer donc une descendance qui est viable et féconde. Je vais m'expliquer par des exemples. Là, vous reconnaissez évidemment des chiens. Eh bien, ces chiens, vous voyez, ils ont une physionomie tout à fait différente, mais ils font partie de la même espèce. Si vous prenez le chien qui est à gauche, vous mettez avec le chien qui est à droite, eh bien, potentiellement, ils sont capables d'avoir des petits, des chiots, et ces chiots eux-mêmes seront fertiles et seront capables aussi d'avoir une descendance. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que tous les individus que vous avez là sous les yeux font partie de la même espèce. Alors, une petite parenthèse, c'est que si vous croisez un mâle de ce chien avec une femelle du petit, ça va être douloureux pour la femelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une limite qui est la matrice, hein, la matrice de la femme, de la femelle, et qu'il faut quand même qu'il y ait une compatibilité physique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, en fait, fait partie de la même espèce, qui est le chien domestique. En fait, le loup également fait partie de la même espèce. On pourrait avoir des petits en croisant un chien avec un loup. Alors, le contre-exemple, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est un mulet. Alors, le mulet, c'est le croisement d'un cheval avec un âne. Donc, quand vous les croisez, le couple est capable d'avoir un petit, donc ce sont ces mulets. Le problème, c'est que le mulet, par définition, il est stérile. Il est incapable d'avoir des petits. Vous n'aurez jamais des petits de mulet. Donc, on voit bien là qu'on a deux espèces qui sont différentes, donc qui sont capables de se reproduire, mais dont la descendance n'est pas fertile, il ne pourra pas y avoir de petits. Encore un contre-exemple, ce sont les platanes que vous croisez, en voiture sur le bord des routes. Donc ce platane, il provient en fait de deux espèces de platanes. Donc le platane d'Orient et le platane d'Occident, ce sont deux espèces distinctes. Et puis un jour, ils se sont reproduits et ils vous ont donné donc ce qu'on appelle le Platanus acerifolia. Et la particularité, c'est que cet hybride, en fait, ce croisement entre espèces, il est fertile, il est capable de donner, en fait, des petits. Et donc, là, on assiste, en fait, à la naissance d'une nouvelle espèce qui, pourtant, à l'origine, avait des parents qui étaient différents. Donc c'est ce qui peut arriver. Quand deux espèces se reproduisent, ça va vous donner des hybrides. Si ces hybrides sont fertiles, eh bien, on va assister à la naissance d'une nouvelle espèce qui va recevoir son nom latin. Ici, il s'agit de Platanus acerifolia. Alors, si je descends en dessous de l'espèce, on va arriver donc au niveau des sous-espèces. Et donc là, sous les pressions de l'environnement, on y reviendra tout à l'heure, on s'aperçoit qu'on va avoir des différences morphologiques. Là, vous avez l'exemple de la bergeronnette. Donc, ces deux spécimens, comme ils font partie de la même espèce, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ils sont capables d'avoir des petits féconds, mais vous voyez qu'ils ont une physionomie différente. Donc ça, c'est le niveau de la sous-espèce. Encore un autre exemple, ça ce sont des coquillages de ma propre collection que j'ai photographiés, et donc vous voyez que vous avez des petites différences, c'est la même espèce, donc ça s'appelle, bon c'est un nom latin, ça s'appelle Cyprae agutata, mais vous voyez que vous avez ici des différences au niveau des formes, au niveau des couleurs. Donc là vous avez quatre sous-espèces de ce coquillage, et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils se reproduisent, ils vont être capables d'avoir des descendants qui sont fertiles. Encore un exemple de sous-espèce, donc ça c'est une silène, la silène de France, et donc vous voyez, vous avez quand même des sacrées différences au niveau de la morphologie, encore un exemple de sous-espèce. Alors maintenant, on va descendre encore plus précis, c'est-à-dire qu'au sein des sous-espèces, on peut avoir des variétés. Et donc là, ça ne se voit pas très bien sur la diapositive, mais l'exemplaire que vous avez à gauche, ici, est plus foncé que l'exemplaire que vous avez à droite. Et donc, ça, c'est une variété, on appelle ça la variété Aurea, de ce cône. Alors ça, c'est un coquillage qui était certainement l'un des plus rares du monde il y a quelques années. Et on en reparlera tout à l'heure, mais il est venimeux, en fait, hein, il est très dangereux. Il a un dard avec une glande à venin, et si vous le mettez dans votre maillot de bain, ça sera... la mort en général dans les deux heures à venir. Alors, l'ampleur de la biodiversité, donc la biodiversité concerne l'ensemble des êtres vivants, du virus à l'homme, sur Terre, dans l'air et dans l'eau, et ça inclut évidemment tout ce qui concerne les espèces domestiques. Alors, il s'agit d'espèces, là vous reconnaissez le mouton du Boulonnais. Vous avez évidemment les chevaux, vous avez les bovins, vous avez des fruits et des légumes que vous consommez, vous êtes bien passé ici pour le savoir. Et ça fait partie aussi de la biodiversité. Alors, on dit souvent que l'homme a créé le mouton du Boulonnais. Je crois que le terme est un petit peu fort. En fait, l'homme ne crée pas une espèce en tant que telle. Il va sélectionner chez une espèce initialement présente certains caractères à son profit, pour les faire évoluer, en fait, ben parce que vous voyez sous les yeux, hein, mais il est évident que si l'homme avait fait disparaître le cheval préhistorique, eh bien aujourd'hui il serait bien incapable de reconstruire, de refabriquer donc ce cheval. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les espèces domestiques, que ce soit les fruits, les légumes ou les animaux, eh bien n'échappent pas à cette règle, ça fait partie de la variation du vivant, ça fait partie de la biodiversité. Alors, les moteurs de cette biodiversité, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ADN, c'est la reproduction sexuée, c'est-à-dire que le patrimoine génétique de la mère et le patrimoine génétique du père, quand ils fusionnent, vous allez avoir des erreurs, certaines erreurs au moment de la duplication de cet ADN, et ça contribue donc à faire évoluer donc les individus, et à créer de la biodiversité. Alors parfois c'est pour le pire, c'est-à-dire que on peut avoir des anomalies génétiques, à ce moment-là, les individus sont éliminés, ça c'est la sélection naturelle, j'y reviendrai, et puis parfois, eh bien, ça peut provoquer, ça peut présenter un avantage pour l'espèce, et à ce moment-là, cette erreur, eh bien, va s'amplifier, on va la retrouver chez les descendants, et donc assister comme ça à des divergences dans les populations, c'est un moteur de la biodiversité. Alors, la reproduction sexuée, bon, vous êtes en âge de savoir ce que c'est, j'imagine. Donc, là, vous avez évidemment le patrimoine du père dans le spermatozoïde et celui de la mère dans l'ovule. Donc, ça, c'est la sexualité, la reproduction sexuée. Et en ce qui concerne l'inventivité de la nature sur la reproduction sexuée, c'est tout à fait extraordinaire. La nature est très imaginative pour échanger donc ces gènes. Et là, je vais vous simplement montrer cet exemple-là, parce que ça, en fait, c'est une sorte de boudoir, enfin, c'est un poisson des grandes profondeurs. Et si vous remarquez bien sur la photo, vous avez ici, en fait, une sorte d'excroissance. En réalité, ça, c'est le mâle. Et ce que vous avez là, c'est la femelle. Et le mâle, vous voyez, vient s'accrocher avec ses dents, il vient s'accrocher sur la peau de la femelle, et en fait, les lèvres vont carrément se souder sur le corps de la femelle. Vous allez avoir le système sanguin de la femelle qui va rentrer dans le corps du mâle. Le mâle va perdre toute capacité, il va plus se nourrir. Et en fait, c'est le sang de la femelle qui va finir qui va l'alimenter. Donc tout ça pour dire que l'inventivité de la nature est extraite, donc dès qu'il s'agit en fait de dupliquer ces gènes. Voilà. Vous voyez sur le dessin là, on voit en fait les différents mâles. Qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Alors on pourrait pendant des heures discuter de la façon de se reproduire, c'est tout à fait extraordinaire. Ça c'est un exemple. Alors, il y a aussi tout ce qui est sélection naturelle, dont le camouflage et les déguisements. Donc là, ben, vous avez un poisson plat. Je suis sûr que les personnes qui sont au fond de la salle ne le voient pas. Donc ça, c'est un moteur de la biodiversité, cette sélection naturelle qui va conserver des caractères, en fait, qui vont permettre la pérennité de ces espèces. Là, en fait, ce qui va sauver ce poisson, ben, c'est qu'on ne le voit pas, il va se dissimuler dans la nature. Et c'est la sélection naturelle, en fait, qui aboutit à ce résultat-là. Donc là, en fait, il cherche à se cacher. Regardez cet insecte. Il ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à des feuilles. Et là aussi, c'est la sélection naturelle qui a fait qu'il est comme ça. Et il cherche par tous les moyens à se dissimuler pour échapper à ses prédateurs. Vous remarquez qu'il va même jusqu'à imiter les petits morceaux de feuilles mortes qui ont été boulottés par les insectes, alors que c'est un être, il est complètement vivant, c'est un insecte. Donc là, il cherche là, lui aussi, à se dissimuler. Après, vous en avez qui sont un petit peu plus malins. C'est-à-dire que lui, il imite une guêpe. Quand on voit ça, on se dit, c'est une guêpe. D'accord? Eh bien non, c'est pas une guêpe, en fait, c'est un papillon. Et lui, il a évolué dans ce sens-là, en fait, pour faire peur enfin, à ses prédateurs et pour éviter d'être mangé, il imite la guêpe. Vous avez aussi tout ce qui concerne la communication. Donc là, je vous ai montré des espèces qui cherchaient à se dissimuler. Là, vous avez des espèces ostentatoires qui ont plein de belles couleurs, en fait, et qui cherchent à prévenir. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce sont des dendrobates, et elles ont un poison extrêmement toxique sur la peau, et donc là, avec, par leur couleur vive, elles cherchent à montrer à leurs prédateurs qu'il ne faut pas les toucher parce qu'elles sont dangereuses. Vous voyez tout à l'heure, elles cherchent à se dissimuler, là c'est beaucoup plus éclatant, beaucoup plus ostentatoire. Alors, les moteurs de la biodiversité, c'est aussi l'adaptation. C'est la spécialisation. Et là, vous avez les exemples des pinsons de garvilles. Et vous remarquerez qu'ils ont des becs de formes différentes. Celui qui est en haut à gauche, il est plutôt adapté à manger des gros fruits avec des noix. Donc il a besoin d'un gros bec pour les casser. Et puis, vous avez une adaptation, le petit oiseau là en bas à droite, qui lui a un bec beaucoup plus fin pour aller chercher des petits insectes dans les troncs d'arbres. Alors, la sélection naturelle, c'est aussi ça, c'est-à-dire des espèces, en fait, qui semblent se ressembler. Donc là, vous avez un cactus, avec les fleurs de cactus, et puis vous avez ici une forme, donc complètement, une plante complètement différente, et vous apercevez que si on ne voit pas les fleurs, la forme de la plante est quand même très semblable, tout simplement parce que, aux mêmes conditions, on a les mêmes réponses. Alors les mêmes conditions, c'est quoi? C'est une sécheresse, hein, ce sont des cactés, donc qui sont adaptés à des terrains secs déficitaires en eau, et donc ils ont besoin d'avoir ce corps charnu pour conserver l'eau. Donc vous voyez que deux espèces qui sont complètement différentes peuvent avoir les mêmes solutions donc adaptatives. Et là, vous avez cet exemple. Donc, alors, la sélection naturelle, c'est la sélection aussi. Et là, vous voyez que deux espèces radicalement différentes, pour la séduction, là aussi, on a adopté à peu près la même solution. Je vous montre ça parce que je l'avais vu en vrai à Montpellier un jour, où j'avais croisé un punk, en fait, avec cette crête. Et le matin, j'avais croisé cet oiseau et je m'étais dit, le soir, tiens, c'est bizarre, il me semblait avoir vu la même chose. Et bien voilà. Les mêmes problèmes, les mêmes solutions. Alors, la spéciation, c'est quoi? Eh bien, vous avez l'exemple là avec ces poissons. Ce sont des populations d'individus qui se séparent et qui vont évoluer physiquement, d'un point de vue du comportement également, on le verra tout à l'heure, parce qu'il n'y a plus d'échange génétique. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir une création, la création donc d'espèces qui sont totalement novatrices. Alors vous avez un exemple, des exemples même qui sont très très connus. C'est par exemple toutes les plantes et les animaux qui sont dans les îles. Lorsqu'en Australie, par exemple, vous avez un taux de ce qu'on appelle l'endémisme, en fait, qui est très important parce que les populations sont restées sur les îles, elles ne se sont plus croisées avec les populations qui sont sur le continent, et elles ont continué à évoluer pour finir par faire des espèces à part entière. C'est ce qu'on appelle le phénomène de spéciation. Alors, vous avez cet exemple aussi, avec des orchidées. Donc ça, c'est une espèce qu'on trouve sur le littoral de la mer du Nord, donc dans notre région. Ça s'appelle l'Epipactis neanderlica, exactement. Et là, vous avez une autre orchidée. C'est un Epipactis aussi, mais ce n'est pas la même espèce, c'est l'hémorine. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est tout simplement parce que cette espèce-là, elle fleurit vers le mois de juin. Celle-ci, c'est plutôt août-septembre. Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'une est en fleur et qu'elle peut être fécondée, eh bien l'autre ne l'est pas encore. Et donc, il n'y a pas d'échange génétique entre ces populations-là parce qu'elles fleurissent pas en même temps. Et donc ça, c'est un phénomène aussi qui crée des espèces. Vous avez la même chose, par exemple, avec des chauves-souris. Donc là, il s'agit d'un rhinolophe, en fait, un rhinolophe des Philippines. Et là, en fait, le phénomène de spéciation, c'est par le cri. C'est-à-dire que les femelles sont attentives à certaines fréquences de cri. Et si ces fréquences, ce sont les populations sont différentes, eh bien, les femelles ne vont pas être attirées si ce n'est pas la fréquence qui leur convient. Et donc, ces noyaux de population, là aussi, ne vont pas se reproduire et vont évoluer et vont créer aussi de nouvelles espèces. Ça, c'est ce qu'on appelle la spéciation comportementale. Alors, des bizarreries. Les moteurs de la biodiversité, ce sont aussi les virus. Hein. Donc là, je vous ai montré, j'ai mis une photo d'arbre qu'on appelle un faux verzi. C'est un être, en réalité. Mais pour ceux qui connaissent les hêtres, c'est un arbre qui est très droit. Et là, vous avez un hêtre qu'on appelle divariqué. En fait, c'est un hêtre qui est complètement tordu. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que quand vous allez dans la Marne, là on trouve en fait ces arbres, eh bien, il y a ce phénomène, on observe ce phénomène chez les chênes également, et chez certains châtaigniers. Et on s'est aperçu, et on a mis longtemps pour comprendre pourquoi ils étaient tout tordus, et on s'est aperçu en fait que c'était un virus qui arrivait donc à passer, entre guillemets, du hêtre au chêne ou du hêtre au châtaignier. Et donc, ça signifie que vous avez un patrimoine génétique qui arrive à franchir cette barrière des espèces, puisque ça va donc d'une espèce à une autre. Et donc ça, le virus est aussi un moyen de créer en fait de la biodiversité. Et puis là, je vous ai montré aussi une petite plante qu'on trouve dans le sud du bassin parisien, pour expliquer que ces échanges génétiques, en fait, ils ont quand même une limite, et qu'il faut absolument qu'il y ait une diversité génétique pour que les populations, en fait, se maintiennent. Cette espèce-là, il n'y a que quelques mètres carrés, Et ce qui se passe, c'est qu'elle est en train de disparaître parce que, comme le patrimoine génétique des individus est trop proche, eh bien, elles deviennent stériles. Et sont en train de disparaître. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas conserver des populations uniquement avec quelques individus. Il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle une métapopulation, donc un certain nombre d'individus avec une certaine variété génétique pour qu'il n'y ait pas ces phénomènes de dépression. Et donc là, cette espèce-là, ben, pour la sauver, il a fallu aller chercher du pollen de plantes qui se trouvaient à 150-200 km pour venir les féconder et les revigorer un petit peu. Voilà pour le premier bloc. Ça va ? Voilà. Donc la deuxième partie, maintenant, on va préciser ce qu'est la biodiversité. Alors, la première qui est connue, c'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique. Quand vous êtes dans cette salle, vous avez des grands, des petits, vous avez des gens avec des cheveux roux, blonds, des yeux bleus, des yeux marrons. Eh bien, ça, c'est la diversité au sein d'une même espèce, puisque vous êtes tous, en fait, des Homo sapiens. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer par cette photo. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la biodiversité génétique. On ne l'observe évidemment pas que chez les hommes. Là, je vous ai montré deux exemples. Là, vous avez le maïs, tel qu'il est cultivé, tel qu'il est connu aujourd'hui. Ça, c'est l'ancêtre du maïs, c'est le théosinte. Donc, vous voyez que vous êtes là au sein d'un groupe qui est vraiment ce qu'on appelle intraspécifique. La même chose pour le lapin des Flandres, la même chose pour les brebis. Donc c'est cette diversité au sein d'une même espèce qui est un premier élément de la biodiversité génétique. Alors toujours au sein d'une même espèce, vous avez une plante qui est connue ici, qu'on appelle le cannabis, je pense que vous le connaissez, ou le chanvre. Et je vous montre ces plantes-là parce que évidemment, quand vous prenez un pied de chanvre dans le nord de la France, il est connu pour faire des fibres. On utilisait le chanvre pour faire des tissus ou des cordages de navires. Et donc, il avait certaines propriétés. Mais si vous prenez le chanvre et qu'on le plante dans des régions chaudes, par exemple comme l'Afrique du Nord, eh bien, les fleurs femelles vont commencer à sécréter de la résine. Et c'est ce qu'on appelle la résine de cannabis. Et par contre, les fibres, elles, vont être beaucoup plus fragiles, on ne pourra plus utiliser cette plante donc, pour faire des tissus. Simplement pour vous illustrer le fait que même au sein d'une même espèce, on peut avoir des modifications, des changements intrinsèques, en fait, qui sont aussi des éléments de cette biodiversité. Tout dépend, en fait, dans les conditions dans lesquelles on les trouve. Alors, je viens d'évoquer la biodiversité au sein d'une même espèce. Vous avez une deuxième sorte de biodiversité qu'on appelle la biodiversité spécifique. Et là, par contre, c'est la, entre guillemets, la collection d'espèces ou la collection de genres différents. Alors, pour l'illustrer, je vous ai montré deux espèces différentes, mais qui font partie du même genre. Donc, ce sont des orchidées sauvages, des serapias. Et on voit que là, vous avez donc ces différences. Ou alors vous allez avoir une biodiversité qui va traiter de genres différents. Par exemple, chez les orchidées, vous avez le genre Ophrys ici et le genre Orchis ici, donc très différents l'une de l'autre. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'on appelle la biodiversité spécifique. Alors, la biodiversité n'est pas, je dirais, équivalente sur toute la surface de la planète. Vous avez des endroits où elle est très très importante, beaucoup plus importante que chez nous, hein, notamment sur certains secteurs de l'Amérique du Sud. En ce qui concerne les Philippines aussi, en ce qui concerne la France, on a la région méditerranéenne en particulier, qui est très riche en biodiversité. C'est ce qu'on appelle les points chauds de la biodiversité. Alors, cette biodiversité, elle n'est pas nouvelle. Hein. Elle existait déjà. Alors, je suis désolé pour la faute d'orthographe, c'est pas évidemment primé. Mais il ne faut pas oublier que à l'époque, au Carbonifère, ici, vous aviez un certain nombre d'espèces qui existaient. Vous aviez des libellules géantes, hein, vous aviez des insectes qui faisaient 50 cm d'envergure, sans problème. Et que, d'ores et déjà, elles existaient. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à tous les êtres qui ont vécu sur la Terre, vous en avez à peu près une espèce sur mille, qui est arrivée à résister jusqu'à ce jour. Le reste a complètement disparu. Donc la disparition des espèces fait partie aussi d'un phénomène normal. Alors, à l'ère secondaire, ben, vous les reconnaissez, hein, ce sont les dinosaures, toute cette vie qu'on évidemment n'a pas connue, mais c'est une biodiversité passée, il faut la prendre en compte. Et puis vous avez aussi des groupes entiers qui ont disparu. Donc là, vous reconnaissez, c'est ce qu'on appelle des ammonites, voilà, elle est particulièrement grande. Voilà, ça a disparu au secondaire, certainement dû à une météorite qui nous est tombée sur la tête. Les trilobites qui existaient à l'ère primaire, qui ont disparu également. Et puis vous avez des espèces qui sont des rescapés. La cyanobactérie, par exemple, 3,8 milliards d'années, elle est toujours là. Extraordinaire. Vous avez des créatures, par exemple, c'est ce qu'on appelle les stromatolites. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Là, vous avez sous les yeux des créatures qui existaient déjà sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Et ben, si vous êtes là, c'est aussi grâce à ces créatures, puisqu'elles ont la propriété de rejeter l'oxygène dans l'air. Et ce que vous voyez là, eh bien, écoutez, c'est ce qu'on aurait pu voir il y a 3,5 milliards d'années sur Terre. Maintenant, c'est assez rare. C'est surtout en Australie qu'on trouve ça. Mais ça existe toujours. Alors, toujours dans la catégorie des rescapés, ça, vous devez certainement trouver ici. Sur le site, on trouve ça après des pluies, par exemple, sur les gravillons, sur des sentiers. C'est ce qu'on appelle des nostocs. Extrêmement ancien aussi. Vous avez cet animal, on retrouve des fossiles de Crétacé où elles ont exactement la même forme. C'est ce qu'on appelle des limules. Elles ont 100 bœufs d'ailleurs. Et c'est très efficace en médecine en particulier pour tester les vaccins. Voilà. Et puis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, qui dit biodiversité dit aussi notion d'origine commune. Et donc là, ben, je vous montre tel que vous étiez quand vous étiez petit. Voilà un fœtus humain à 37 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que vous observez ici en fait des traces de queue ici. Vous avez également des traces de branchies. En fait, au niveau de l'oreille interne. Tout ça pour expliquer que en 9 mois, c'est-à-dire depuis la fécondation jusqu'à votre naissance, vous l'ignorez probablement, mais vous avez retracé, d'un point de vue morphologique, toute l'histoire de votre espèce depuis pratiquement les origines de la vie. Et voilà, vous allez faire ça en 9 mois. Comme quoi, en fait, la nature remet une couche à chaque fois, mais rien ne disparaît fondamentalement. Et si vous comparez par exemple ces fœtus ici, eh bien vous allez bien en peine de savoir lequel est un fœtus d'homme, à votre avis. Je vais vous montrer le stade suivant. On se doute bien que ce ne sont pas les deux spécimens à gauche, mais on hésite ici. Et vous allez avoir la solution sur la troisième image. Donc l'homme est ici. Donc vous voyez qu'on a quand même une origine commune et on est beaucoup moins éloigné qu'on ne croit en tout cas de l'ensemble des êtres vivants. Euh, Alors, la biodiversité est un processus dynamique. On a déjà vu l'évolution, je dirais, créer des nouveaux individus et des nouvelles caractéristiques morphologiques à toute vitesse. Par exemple, ici, c'est un exemple d'un lézard. On a pu l'observer sur une période de 36 ans. Quand il est arrivé, il était, je crois qu'il était carnivore. Et ensuite, eh bien, on l'a vu évoluer très vite et s'adapter à un régime herbivore, donc avec des modifications de tout son système digestif, de ses mâchoires. Et là, on peut pratiquement, à l'échelle d'une vie, observer donc cette évolution qui peut aller très vite si les conditions changent. Alors, les bilans quand même, je veux simplement vous donner les quelques chiffres. Tout à l'heure, je disais qu'on avait à peu près une espèce sur 1000 qui avait résisté. Eh bien, effectivement, la Terre a eu quelques moments difficiles, hein, notamment 5 grandes périodes d'extinction. Et là, vous avez une petite idée du pourcentage des espèces qui ont disparu. Hein, donc, à la fin du Crétacé, c'était 50%, la fin du Trias, 20%, la fin du Permien, donc 90% des espèces ont disparu. Donc, on imaginait la catastrophe que ça a dû provoquer, la fin du Dévonien 60% et la fin de l'Ordovicien 60%, qui est quand même assez considérable. Alors, la biodiversité passée, on se dit, à quoi ça sert? Ça sert quand même à quelque chose, hein, puisque là vous avez sur la gauche un puits de pétrole. Le pétrole est issu de micro-organismes qui vivaient dans des milieux saumâtres. Eh bien aujourd'hui, ça nous est quand même très utile, le pétrole. Et ça vient d'une biodiversité, donc évidemment qui n'existe plus aujourd'hui, c'est de la biodiversité passée. Sur l'image du milieu, vous avez du charbon. Le charbon, tant que je sache, ce sont les restes de forêt, du carbonifère. Eh bien le charbon a évidemment son utilité, toujours maintenant. Et puis là, je vous ai montré une carrière, donc avec de la craie. Et la craie, eh bien, c'est quoi? Ce sont des tests, hein, comme des petites coquilles, de ce qu'on appelle des coccolitos, pour aider. Et donc, ce sont des créatures qui existent auparavant, qui sont morts, et puis au fur et à mesure que les siècles et les millénaires ont passé, on fait ces couches. Alors, à quoi ça sert, cette biodiversité passée dans le cadre du calcaire? Le calcaire, si vous le chauffez, ça va vous donner de la chaux. Et puis, ça vous permet de fabriquer du béton et puis de faire des maisons. Voilà. Donc tout ça pour illustrer que cette biodiversité, même quand elle n'existe plus, nous est fortement utile. Alors, dire aussi que il n'y a pas que les animaux et les plantes. Tout à l'heure, je vous ai montré des biens en disparition. Mais il faut savoir que nous-mêmes, l'homme, a été... il y avait plusieurs espèces d'hommes à l'époque et qu'on n'a pas échappé à cette règle de disparition, puisque aujourd'hui, parmi toutes les espèces d'hommes qui ont vécu, eh bien, il n'y a que la nôtre qui a résisté à ce jour. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Alors, je vous ai expliqué la biodiversité donc au sein d'une espèce. Je vous ai expliqué la biodiversité avec l'ensemble des espèces. Maintenant, je vais en évoquer une troisième, qui est ce qu'on appelle la biodiversité écosystémique. Là, on parle bien de groupes d'espèces. Et là, on va faire un petit coup de loupe, déjà au niveau de vos cellules, au niveau de nos cellules. Et quand vous regardez la coupe d'une cellule, ici, vous avez ce qu'on appelle des mitochondries. Alors, des mitochondries, ce sont en fait ce qu'on appelle des archéobactéries, en fait des très très vieilles bactéries, qui sont venus s'associer à des cellules, mais qui ont leur ADN propre. Donc c'est tout ça pour vous dire que la biodiversité, ça commence déjà dans vos cellules, il y a déjà du monde dans vos cellules. À quoi ça sert? Il vaudrait mieux que vous les ayez toujours des mitochondries, puisque c'est ça qui fournit l'énergie, en fait, à vos cellules. Donc si vous n'aviez pas de mitochondries, eh bien, ça serait la mort immédiate. Petite parenthèse également, vous avez là le noyau donc, de cette cellule, avec de l'ADN. Et dans votre ADN, on retrouve du monde aussi. Vous avez des restes de virus, par exemple, qui sont présents. Donc, là aussi, il y a du monde donc, dans les cellules. Là, je vous parle de la cellule animale. Vous avez l'équivalent pour les cellules végétales. Et là, c'est ce qu'on appelle les chloroplastes, qui ont à peu près la même fonction que les mitochondries. Et donc, vous voyez, même au niveau d'une cellule, cette biodiversité existe. Alors, si on abandonne notre coup de loupe et qu'on revient au niveau de l'individu, eh bien, vous allez vous apercevoir que si dans votre intestin, par exemple, vous avez bactéries qu'on appelle les Escherichia coli, vous en avez des milliards dans vos intestins. Et je vous souhaite de toujours avoir des Escherichia coli parce que ça fait partie de votre flore intestinale. Et si vous ne le laviez pas, et vous ne pourriez pas assimiler les aliments. Donc, cette biodiversité est très utile. Là, vous avez des acariens. Vous avez plein d'espèces d'acariens sur votre corps. Vous avez des espèces dans les cheveux. Vous avez d'autres qui sont particulières à vos sourcils. Vous avez également sous les aisselles. Et ces acariens, eh bien, vous nettoyez votre peau. Ça va enlever, ça va bouffer des petits bouts de peau morte. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se grattent dans la salle. Et voilà. Et vous avez mis l'exemple, par exemple, d'un paresseux aussi, qui est en lui-même pratiquement un écosystème, puisqu'il est ouvert. Donc vous avez des algues qui vivent spécifiquement donc sur ce paresseux. Donc vous voyez, on estime à peu près que sur un individu, si on compte tout, hein, donc les champignons, les bactéries, etc., sur une personne, ça représente à peu près 2000 espèces différentes. Alors, la biodiversité, eh bien, écosystémique, c'est aussi tout ce qui concerne le paysage. Tout ce qui concerne les formations d'origine anthropique, ça concerne les lagunes, les ensembles dunaires, les forêts, et puis on peut considérer que ce sont aussi nos habitations. Et puis, ce sont aussi des communautés. Là, vous avez un exemple de plantes qu'on trouve dans des éboulis, dans les Pyrénées, et on s'aperçoit que dans des conditions similaires, d'humidité, de roche, dans des conditions similaires géologiques, eh bien, on retrouve toujours les mêmes espèces. Et d'où l'idée de dire que la biodiversité, c'est aussi l'ensemble de ces espèces, donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la biodiversité écosystémique. Avec parfois des espèces qui sont uniques au monde, celle-ci en particulier, qu'on trouve que sur quelques secteurs à côté de forêts. Alors, une quatrième forme de biodiversité qui a été récemment découverte. Donc là, je vous montre un arbre. Et si on fait un petit coup de loupe sur le bout d'une branche, il y a un petit groupe de cellules qu'on appelle un méristème. Et vous avez des scientifiques, notamment Francis Allais, qui sont amusés à regarder au niveau génétique ce qu'il y avait dans ces méristèmes. Et il a découvert en particulier que vous aviez un nombre de gènes qui étaient différents du bout d'une branche par rapport à un autre bout de branche. Et du coup, cette vision d'un arbre qui est un individu unique n'est pas tout à fait vraie. En fait, il faudrait presque le comprendre comme une communauté d'individus parce qu'il y a des fluctuations du patrimoine génétique donc au bout de ces branches. Alors, c'est assez bizarre comme perception, mais c'est quelque chose qui est très important, notamment vis-à-vis de l'évolution naturelle, puisque comme le patrimoine génétique est différent d'une branche à l'autre, eh bien, dans des conditions particulières, eh bien, ce sont les plus aptes qui vont résister. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, si cet arbre est au bord de la mer, eh bien, ce seraient les branches les plus aptes à supporter, par exemple, des engrais salés, qui résisteraient au détriment d'autres, ce qui explique qu'on peut voir en fait un arbre avec un morceau qui est mort et un morceau qui est vivant, ce qui serait totalement impensable en fait pour un être vivant comme un homme. Alors, j'évoquais donc les quatre grands types de biodiversité, mais j'insiste surtout sur le fait que la biodiversité ne se limite pas qu'à des collections d'espèces ou de communautés, et que les relations, hein, c'est le propre du vivant, les relations entre ces espèces fait partie aussi de cette biodiversité. Donc là où je vous en ai montré quelques-unes, vous avez par exemple les lichens, hein, qui sont des symbioses entre une algue et un champignon. C'est un exemple de relation donc entre des espèces. Là, je vous montre cette petite orchidée parce que ces relations peuvent aller très très loin. Ces petites orchidées, on appelle ça l'orchidée louche, et vous en avez pas loin d'ici, hein, sur la vallée d'Internoise. Et ce qui est tout à fait curieux, c'est que quand on regarde bien la photo, on voit deux petits yeux, là. Donc la fleur imite des yeux d'insectes, et elle va jusqu'à imiter aussi les antennes d'insectes. Et en réalité, c'est un leurre sexuel. C'est-à-dire que la fleur, là, cherche à imiter la femelle de l'insecte, de façon à ce que le mâle, mais qui croit avoir affaire à une femelle, va venir se poser sur la fleur, et va récolter donc le pollen, les antérélies sur la tête. Et ensuite, il va se sauver, il va se faire ravoir à nouveau par cette plante, et il va la féconder. Donc c'est assez extraordinaire, parce que l'orchidée va jusqu'à imiter, en fait, les phéromones, c'est-à-dire les cellules sexuelles qui attirent, en fait, les mâles. Donc c'est assez étonnant, parce que pour arriver à fabriquer des phéromones, il y a pratiquement un docteur en chimie, et pourtant, une orchidée est capable de le faire. Ces relations vont très loin, puisque, pour ne pas gêner les vraies femelles, insectes, en fait, l'époque de floraison de la fleur était un petit peu différente de l'époque où les vraies femelles insectes peuvent être fécondées comme ça. Ça ne gêne pas, en fait, la sexualité des insectes. Vous voyez jusqu'où peut aller, en fait, ces relations entre des êtres. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Alors d'autres relations, hein, qui sont aussi des moteurs de la biodiversité d'ailleurs, ben, c'est tout ce qui concerne les gales, hein, c'est tout ce qui concerne le parasitisme. Dire aussi que l'état de la biodiversité, ben, c'est un petit peu comme un iceberg, c'est-à-dire qu'on ne sait presque rien, qu'il reste aussi un très grand nombre d'espèces à découvrir. Si un jour vous allez à Nausicaa, on voit en fait des cédérums, où on voit par exemple tout ce qui est connu en matière de flore, en matière de faune, en matière de champignons, etc. Et tout ce qui reste à découvrir est symbolisé par des disques, par des cédérums vierges. Et vous voyez là qu'il y a quand même un fossé énorme entre ce qui existe vraiment et ce qui est connu. Et donc il est bien illustré par cet iceberg où on fait ce qu'on connaît, c'est simplement une petite partie émergée. Alors l'état de la biodiversité, ben, ça va pas fort. Pour vous donner un ordre d'idée concernant les écosystèmes, parce qu'on appelle les habitats, ils sont en mauvais état à peu près à 65%, et vous avez plus de 50% de la faune qui est menacée. Donc, à comparer avec les bilans que je vous ai montrés tout à l'heure, avec des taux d'extinction de 50-60%, on voit que là, on est quand même à une grande période de l'histoire de la Terre, avec des disparitions majeures qui sont dues au fait de l'homme, de son action. Alors, cette biodiversité, donc, elle est cartographiée, hein, c'est ce qu'on appelle les INF, ça veut dire zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Et vous avez ici, en vert, donc, la carte de ces INF qui illustre là où la biodiversité est maximale dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc vous reconnaissez les grands secteurs naturels de notre région, notamment les secteurs de parc, la Belle-Moi, le littoral aussi qui est très riche, le Boulonnais, le Domarois, et voilà. Voilà pour le deuxième bloc, j'en ai encore un. Là, on va voir l'intérêt et l'évolution de la biodiversité. Alors, voici donc les disparitions. Ça vous donne simplement un ordre d'idée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça reflète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, des animaux et des plantes sont en voie de disparition, vont disparaître. Vous voyez, on arrive pratiquement au même taux, donc à plus de 41%. Ensuite, l'image suivante, ça vous illustre donc les grandes extinctions. Donc en général, vous remarquerez que à partir du moment où l'homme arrive sur un territoire, eh bien les choses se passent plutôt mal. Les grandes disparitions, c'est à peu près à 10 000 ans, où ben, on est quand même un prédateur particulièrement efficace, et donc on est responsable de beaucoup de disparitions sur tous les continents du monde, que ce soit l'Afrique, l'Australie, l'Amérique. Donc, effondrement de la biodiversité. Alors, un petit bilan, en fait, sur la part des espaces protégés et gérés, donc notamment par le Conservatoire des sites naturels. Donc, vous voyez que pour la partie forêt, la part protégée et gérée, elle est ridicule. On la voit ici. Sur les pelouses calcicoles, bon, là, on est vraiment à quelque chose qui est ridicule également. Les landes et les milieux acides. Ici, les zones humides, là, on voit que les protections sont un petit peu plus importantes. Et enfin, les milieux littoraux sont les mieux protégés. Donc, on arrive quand même à presque 40%, 30 à 40% de protégés. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les menaces, eh bien, la réponse en matière d'espace protégé, il y a encore du boulot à faire hein, sur certains milieux, notamment les pelouses. Je pense que les milieux les plus menacés, ce sont les landes et les pelouses, pour des raisons que je vais expliquer. Alors, c'est dommage parce que cette biodiversité, elle est quand même très utile. Simplement pour vous montrer des choses, des utilités. Vous montrer par exemple la veuve noire. Donc on a découvert qu'en fait c'était un médicament qui permettait de... On pouvait en tirer un médicament qui permettait de lutter contre l'impuissance sexuelle. Vous avez ce coquillage, je l'ai montré tout à l'heure, le cône, hein, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait un dard avec des glandes à venin. Eh bien, on tire aujourd'hui des antidouleurs qui sont à peu près 2000 fois plus puissants que la morphine. Donc il est hautement probable que ces coquillages nous donnera donc des traitements contre de la douleur qui sera beaucoup plus efficace que ceux que nous avons aujourd'hui. Vous avez ici, par exemple, la pervenche de Madagascar, dont on a tiré des médicaments qui sont extrêmement puissants pour lutter contre la leucémie, en particulier, donc contre le cancer. Vous avez l'IF, ici. Là, c'est pareil, on en a tiré des substances qui étaient anticancéreuses. L'ergot de seigle, c'était redoutable par le passé. En fait, c'est un champignon qui parasite les grains. Et on en a tiré beaucoup de médicaments, notamment pour les femmes qui sont enceintes, pour décontracter les muscles lisses. C'est avec ça aussi qu'on fait du LSD, hein, cette drogue. Ce petit champignon aussi qui a été découvert dans des tourbières en Europe du Nord. Et on pense que ça va être certainement le médicament du troisième millénaire qui est extrêmement efficace pour lutter contre tous les rejets de greffe. Et puis, plein de choses. Bon, la vipère aussi, les venins en général, d'une manière générale, comme tout ce qui est batracien aussi, on peut tirer des médicaments qui sont très intéressants. Notamment une grenouille, je me souviens, c'est une grenouille australienne, qui gardait ses petits, le mâle gardait les petits dans l'estomac. Et on se posait la question pour savoir comment les petits pouvaient ne pas être digérés par les tubes gastriques. Et on a découvert qu'il y avait des substances en fait qui protégeaient les petits et qui pouvaient donc arriver à aboutir à des médicaments très intéressants pour des luttes contre des maladies gastriques en particulier. Vous voyez que dans la nature, on a tout un tas de choses qu'on ne sait pas forcément quand on regarde autour de nous, on ne voit pas forcément toutes les utilités que ça pourrait avoir pour l'homme, parce qu'il aurait fallu tout étudier. Mais au fur et à mesure que la science avance, on se dit que heureusement qu'on n'a pas fait disparaître la pervenche de Madagascar ou ce petit champignon, parce que demain, ben, ça peut sauver des vies, et puis ça peut soulager bien des malades. Alors la biodiversité, ça n'a pas qu'un rôle strictement utilitaire. Là aussi, pour vous montrer que c'est aussi la source d'inspiration de nos sociétés. Ce sont des sources d'inspiration culturelle que ce soit le lotus, hein, par exemple, qui est une fleur plus ou moins sacrée, et puis ben, Mickey. Hein, ça fait partie aussi de notre société, c'est l'intérêt culturel, l'ours, bah, les légendes, et là j'ai représenté donc le Roméo et Juliette avec la Roméo et Juliette. Romulus et Romulus, et puis donc la louve, donc c'est la biodiversité, c'est aussi la source de notre de ce que nous sommes en fait en tant qu'humains. Et puis je vous ai montré aussi bah, cette plante que j'ai prise en photo dans les Alpes, pour dire aussi que bah, une espèce, elle n'avait pas forcément besoin d'avoir une utilité, d'avoir à justifier son utilité pour vivre, et que tout simplement parce que elle est belle, elle a aussi droit à sa place donc, sur notre planète. Alors, une bizarreté tout de même, c'est que nous sommes dans une région où la biodiversité, elle va pas de soi. Ce que je veux dire, c'est que si on laisse faire la nature, elle va diminuer. Par exemple, quand on est sur des milieux dunaires, eh bien, on va arriver donc à des évolutions de fourrés, d'arbousiers. Et puis toutes les espèces qui sont typiques des milieux ouverts vont disparaître. Quand vous allez par exemple sur des coteaux calcaires, eh bien là ça va se boiser petit à petit. Sur les zones humides, là aussi ça va se refermer, on va avoir des solaires en fait, ça va finir sur des milieux qui sont complètement fermés. Quand on va sur des landes, ce sont les ajoncs, tout va se refermer. Et donc, tout ça pour illustrer le fait que si on veut conserver la biodiversité dans notre région, eh bien, il faut la gérer. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer pourquoi c'est comme ça, mais il faut la gérer, et donc, ça donne tout son sens aux des structures telles que bah, les parcs naturels, les départements aussi, qui ont des services qui s'occupent de la gestion des espaces naturels, et donc, qui vont réouvrir, en fait, ces milieux pour retrouver une biodiversité qui avait disparu. Avec des résultats spectaculaires, donc on arrive à retrouver des espèces qui ont disparu depuis 30 ans ou 40 ans dans la région grâce à ces actions. Et puis, dire aussi que la biodiversité, sans la naturalité, ça n'a guère de sens. La biodiversité, si on dit, bah tiens, c'est quoi l'endroit le plus riche en matière de biodiversité? Moi, j'en ai pas de Calais, bah, je dirais que en matière de flore, ce sont les frigos du Conservatoire botanique national de Bayeul, parce que mètre cube, vous avez un nombre d'espèces absolument incroyable. Ou alors le zoo de Lille pour la partie faune. Donc tout ça pour dire que c'est quand même pas un objectif en soi que d'avoir des zoos et des frigos. Et qu'il y a un facteur qui est très important, et au moins aussi important que la biodiversité, c'est celui de la naturalité. Là où je vous ai mis une petite orchidée, qu'on trouve en fait dans l'Avesnois, et cette orchidée, eh bien, s'il fallait expliquer aujourd'hui pourquoi elle est là, il faudrait remonter à l'époque pratiquement primaire, hein, à l'époque où on était dans notre région, où on était sous l'eau, il y avait des massifs de coraux, et puis ensuite tout s'est élevé avec l'élévation des Ardennes, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait discuter pendant des heures et des heures sur les raisons pour lesquelles on trouve cette orchidée. Et si demain elle disparaît, et puis qu'on la remet, eh bien le jour où on la voit, bah, il n'y a pas d'histoire. On va dire, bah, elle est là parce que quelqu'un l'a remise. Donc vous voyez que cette notion de le lien avec l'histoire, de naturalité, c'est quelque chose qui est aussi important que la biodiversité, ou tout au moins mes yeux. Voilà, donc si je récapitule les enjeux, eh bien, ils vont se résumer en fait à trois grands domaines, c'est la connaissance, donc il faut continuer ben, tout ce qui concerne les inventaires naturalistes, ça concerne la sensibilisation et la formation du public, et puis ensuite, ben, c'est géré, je vais vous expliquer pourquoi, parce que il faut réouvrir les milieux, on est obligé aujourd'hui d'intervenir si on veut conserver le patrimoine naturel de la région. Et ensuite, eh bien, il faut développer toutes les structures qui s'occupent de restaurer les milieux naturels, ce sont les parcs, les conservatoires, la police de l'environnement, etc. Voilà, j'ai dû mettre une heure, donc le temps que j'avais prévu.